Le MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, une émission en partenariat avec les ministères de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires sur Radio Territoria.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission où nous allons à nouveau nous pencher sur la dématérialisation des autorisations d'urbanisme. Une troisième émission sur ce sujet. Un an après le lancement des travaux, où en est-on ? Pour en parler, j'ai à mes côtés Michel Phélep. Bonjour Michel.
Bonjour Johanna.
Vous êtes chargée de mission animation territoriale DHUP DGALN. Vous répondrez aux questions de tous nos auditeurs en fin d'émission. Et puis à vos côtés, Jean-Baptiste Lannes. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour Johanna.
Vous êtes directeur du programme DEMAT ADS et c'est avec vous que nous allons traiter la thématique du jour. C'est parti pour ce nouveau MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement.
Le MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, la thématique du MAG.
On rappelle un petit peu les fondamentaux de ce programme DEMAT ADS. À partir du 1er janvier 2022, toutes les communes de plus de 3500 habitants seront tenues de recevoir et d'instruire les demandes de permis de construire par voie dématérialisée. Objectif, faciliter les démarches pour tous. Jean-Baptiste, vous nous avez déjà présenté ce programme DEMAT ADS, programme qui répond aux obligations de la loi Élan en dématérialisant l'ensemble de la chaîne d'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme. Depuis le dépôt de la demande par le pétitionnaire jusqu'à la réalisation de son projet, cela fait maintenant un an que vous êtes aux commandes de cet ambitieux programme. Et avec vous, nous allons faire le bilan de cette première année de travail et parler des perspectives pour l'année qui s'annonce. Avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être un bref rappel du cadre de ce programme de dématérialisation de l'application du droit des sols pour les nouveaux auditeurs qui découvrent notre émission.
Alors, vous l'avez déjà bien présenté, donc je vais faire extrêmement court. Et puis, je vais inviter nos nouveaux auditeurs à écouter les deux premières émissions, celles du 16 juin et du 16 juillet.
Ils sont disponibles en podcast.
Exactement.
Sur Radio Territoria.
Et c'est bien l'avantage de ces podcasts, parce que ça permet de progresser dans notre présentation. Donc, néanmoins, je rappelle ce que vous avez dit. Donc, à la fois la loi Élan avec l'article L423-3 du Code de l'urbanisme. Vous avez rappelé que les communes de plus de 3500 habitants doivent disposer d'une téléprocédure pour la réception et l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme. Et puis un deuxième sujet qui cette fois-ci concerne toutes les communes, qui est la saisine par voie électronique. Donc c'est l'article L112-8 et suivant du CRPA, c'est-à-dire du Code des relations du public à l'administration. Concernant les demandes d'autorisation d'urbanisme, l'échéance qui était d'abord au 8 novembre 2018 a été reportée au 1er janvier 2022 pour coïncider avec l'échéance de la loi Élan. Alors, les objectifs, c'est la dématérialisation de la démarche depuis le pétitionnaire jusqu'à l'instructeur et pour l'ensemble des demandes d'autorisation d'urbanisme, que ce soit une demande préalable, que ce soit un permis de construire, un permis d'aménager, un permis de démolir. Donc, ça concerne l'ensemble des demandes d'autorisation d'urbanisme. L'action de l'État se concentre sur la création d'une suite logicielle qui permettra de raccorder et de connecter l'ensemble des interlocuteurs, en particulier la plateforme des autorisations d'urbanisme. Je vous propose là véritablement d'écouter la première et la deuxième émission qui présentent très bien cette plateforme, en tout cas on s'appesantit sur ce sujet. Et puis l'autre sujet qu'on va évoquer aujourd'hui plus avant, c'est de mobiliser l'ensemble de l'écosystème qu'il y a autour de l'application du droit des sols. Donc j'ai cité évidemment Radio Territoria pour plus d'informations, pour revoir le cadre. Vous avez aussi une page synthétique sur le site web du ministère de la Cohésion des Territoires. Et puis nous avons maintenant une plateforme collaborative, Osmose. J'y reviendrai par la suite.
Alors tous ces canaux de communication que vous venez de citer sont l'un des résultats concrets de votre première année de travail. On va évidemment en reparler tout au long de cette émission, mais avant, dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui ?
Je suis mort de trac. Mais bon, ça, c'est lié à l'exercice. On a beaucoup d'auditeurs. Hein. Et donc, pour moi, je n'ai pas l'habitude de passer à la radio. Mais plus sérieusement, dans quel état d'esprit, si le « vous » ne s'adresse pas à moi, mais un « vous » pluriel et collectif, on a un état d'esprit très engagé, très, très, très volontaire. Et on a tous l'impression, tous les partenaires, je les citerai rapidement, on a tous l'impression d'être en retard. Je pense que c'est lié au fait qu'on a une échéance, c'est lié aussi au fait que les différents programmes des différents acteurs doivent se coordonner entre eux et que s'il y en a un qui prend un peu de retard, les autres ont l'impression aussi d'être en retard. Mais globalement, on est extrêmement volontaire. On a eu un comité de pilotage interministériel hier avec les représentants des associations d'élus, la MF et la DCF, les représentants des différents ministères, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Culture, des représentants des services déconcentrés, des collectivités territoriales, et puis on a aussi des partenaires qui nous permettent d'apporter un certain nombre de services, d'offres auprès des collectivités territoriales. On va citer le CNFPT, dont nous avons une interview que vous avez réalisée, Johanna, de Madame Caron, et puis nous avons aussi l'UGAP. Donc tous ces acteurs, ainsi que l'a dit là, la direction de l'information légale et administrative, tous ces acteurs sont très mobilisés dans cette rentrée. Vous avez dit que ça faisait un an que j'étais arrivé, mais les travaux sur la dématérialisation ont déjà démarré avant que j'arrive. Le programme a été lancé mi-2018. Il y a eu la fin 2018 le vote de la loi Elan qui a structuré le cadre réglementaire et législatif. Et puis à la fin du premier semestre 2019. On a fini toutes les études, préalables au lancement véritable des travaux, qui a permis de définir le cadre de qui faisait quoi et pourquoi on le faisait. Et puis, pendant tout le deuxième semestre, on a fait deux choses importantes. On a structuré le projet en différents chantiers, dont des chantiers de création des différents outils, mais ça peut être aussi des chantiers réglementaires, un chantier juridique donc, et puis des chantiers de conduite du changement, de communication, pour pouvoir entraîner l'ensemble de l'écosystème. Et surtout, ce que l'on a fait, et ça, je pense que c'est important, c'est qu'on a réalisé, j'en l'avais évoqué lors des précédentes émissions, mais je le rappelle, on a travaillé sur la standardisation des échanges entre les différents outils qui sont à la disposition des acteurs, que ce soit les services instructeurs, que ce soit les services de l'État, les services consultés, tout le monde se fonde sur une même standardisation. Et puis, dès le premier trimestre 2020, on a commencé à développer Plateau. Au deuxième trimestre 2020, je ne l'apprends à personne, mais nous avons été frappés de plein fouet par la crise sanitaire. On a quand même continué à travailler sur Plateau. Et ça nous a permis de qualifier une première version de Plateau qu'on a mis en production dès juillet. Après, au troisième trimestre 2020, on a commencé à reprendre les tests, clairement, pour avancer sur la mise en production de Plateau et des différents outils. Et avec l'objectif, évidemment, de mettre en œuvre, de la mise en œuvre de l'application de la loi Elan au 1er janvier 2022.
Alors justement, vous parliez il y a quelques instants de cette crise sanitaire et de ce contexte très particulier que nous avons connu. Est-ce qu'à un moment, le ministère que vous représentez a envisagé un report de cette échéance du 1er janvier 2022 ?
Alors, c'est une question qui m'a été régulièrement posée ces dernières semaines, puisque effectivement, il y a eu la crise sanitaire qui a désorganisé beaucoup de services. Ça n'est pas une décision que le ministère pourrait prendre seul, évidemment. Hein. C'est une décision que l'on doit faire en pleine concertation, qu'on doit proposer en pleine concertation. Il existe des instances de pilotage, j'ai évoqué le comité de pilotage qu'on a eu hier, qui doivent nous permettre d'assurer cette concertation. Donc, hier, cette question a été abordée, clairement. Est-ce qu'il faut reporter ? À date, je pense que tous les acteurs ne souhaitent pas reporter la date du 1er janvier 2022. Alors pourquoi ? Pas parce que ça serait un signe très négatif sur l'implication des acteurs des collectivités, des services consultés qui sont déjà très investis, tous les agents qui travaillent déjà sur ces échéances et qui se préparent. Et puis, le retour d'expérience du report de la date concernant la SVE de novembre 2018 au 1er janvier 2022 a laissé un goût amer parce que tout le monde s'est bien rendu compte que en fait il y avait eu une impréparation par rapport à la date de novembre 2018 et qu'on ne pouvait pas juste reculer pour reculer, il fallait se préparer. Donc là, on a l'impression que l'ensemble des acteurs font un effort extrêmement important pour essayer d'honorer la date du 1er janvier 2022. Donc l'objectif, c'est pour l'instant de le respecter.
On comprend bien que cette dématérialisation de l'application des sols est un sujet d'actualité qui est important pour tous les acteurs qui sont concernés en ce mois de septembre 2020 qui marque la rentrée. Comment avez-vous abordé cette rentrée ?
Alors pour nous, c'est clairement une année de défis qui s'ouvre. Donc déjà, à très brève échéance, il faut qu'on aboutisse à des versions complètes. Nous devons finir de construire nos solutions. On dispose de premières versions, mais on doit poursuivre d'ici la fin de l'année pour obtenir des versions complètes en termes fonctionnels et en termes de capacité à relier les acteurs entre eux. Le deuxième objectif, c'est on travaille avec nos différents partenaires pour pouvoir les raccorder, en particulier le ministère de la Culture, les services départementaux d'incendie et de secours, ainsi que les services gestionnaires privés. Donc ça va s'échelonner dans le temps parce on n'est pas en contact avec l'ensemble des services gestionnaires, mais aussi on travaille avec la DGCL pour raccorder ACT. L'objectif, c'est que tous ces acteurs conçoivent leurs solutions, conçoivent leur raccordement pour que ça soit prêt courant d'année prochaine. Je vous ai interrompu.
Terminé.
Bon, nous devons... l'autre sujet, c'est que nous devons concevoir notre plan de déploiement. Il nous faut pour cela s'assurer que toutes les collectivités sont prêtes à dématérialiser les demandes d'autorisation d'urbanisme, soit pour celles qui doivent disposer simplement d'une modalité de saisine par voie électronique, soit celles qui doivent se raccorder à plateau pour cette fois-ci l'instruction et raccordements avec les services consultés. Donc notre objectif, c'est clairement de définir d'ici la fin de l'année une stratégie de déploiement suffisamment efficace pour mobiliser tous les territoires et sensibiliser toutes les collectivités territoriales.
Avez-vous une vision claire du niveau d'implication des différents acteurs aujourd'hui ?
Pas encore tout à fait. C'est clairement un sujet. Donc on a fait beaucoup appel au volontariat, que ce soit le volontariat des DDT, des directions départementales des territoires ou celle des collectivités territoriales. On sait que toutes les directions départementales sont informées et qu'il y en a, il y en a 25 qui sont déjà expérimentatrices, il y en a une dizaine qui sont associées à d'autres chantiers. Pour nous, c'est important qu'on ait cette mobilisation car les directions départementales des territoires vont être très impliquées dans le déploiement des différents outils et du dispositif. Et puis du côté des collectivités territoriales, sur la démarche que l'on mène, on en a une centaine qui sont déjà qui vont contribuer ou qui contribuent aux expérimentations, en particulier par l'intermédiaire de leur éditeur. Il y en a certainement beaucoup plus qui se préparent à la dématérialisation des demandes d'autorisation d'urbanisme. C'est clair et on sait qu'il y a beaucoup d'endroits où il y a déjà des choses qui sont faites. Mais c'est vrai que pour le moment, on n'a pas une vision globale de la préparation et de l'avancée de ces collectivités territoriales.
Comment comptez-vous vous y prendre du coup ?
Pour avoir cette vision, on va essayer d'être très pragmatique. Donc on a démarré des travaux de cartographie. On va mobiliser nos DDT pour qu'elles nous fassent remonter des informations et qu'elles sont de leur territoire. Il y a une autre information, c'est que certains le savent peut-être, mais l'AMF et la DCF ont lancé une grande enquête auprès de leurs adhérents. Et donc, l'enquête est close, là, en termes de collecte des informations. Et on aura, je crois, alors je c'est pas à moi du tout de communiquer sur le résultat de cette enquête. Ça n'a pas été analysé. C'est à l'AMF, à l'EDCF de le faire. Mais il y a eu une grande participation. Ça nous donnera une visibilité très intéressante sur le degré de préparation. Il ne s'agit pas d'avoir une visibilité à la commune, hein, c'est pas notre objet, mais d'être certain que l'ensemble des communes et des communautés, donc c'est-à-dire tout ce qui est intercommunal, ont eu l'information générale du programme, qu'elles ont évidemment accès à toutes les sources d'information et d'assistance, et qu'elles vont se lancer dans la démarche.
Finalement, quelles sont les évolutions par rapport à l'année dernière ?
Alors, clairement, l'année dernière... Alors, donc, si on met l'année dernière, on va la faire... on va parler d'année scolaire, hein, pour donc finalement pas d'année dernière en septembre 2019, parce que là, on démarrait à peine. Mais l'année dernière, on a été quand même dans un temps d'information et de prise de connaissances. Donc on a mis en place un certain nombre d'outils et d'instances de gouvernance pour qu'un maximum d'outils et de canaux soient accessibles. Donc en particulier, j'invite toutes les collectivités qui nous écoutent à nous rejoindre dans cette démarche en consultant la page web, la page internet du ministère de la Cohésion des Territoires, dédiée à la dématérialisation de l'application du droit des sols, où elles trouveront beaucoup d'informations et d'outils pratiques. C'est très simple pour y aller. Hein. J'ai essayé avec les trois moteurs de recherche. Hein. Donc, il suffit de taper dématérialisation des demandes d'autorisation d'urbanisme. Et si ce n'est pas le premier choix, c'est le deuxième. Et on tombe directement sur la page. Et puis, clairement, ça, c'est un premier sujet. Vous aurez déjà de la disposition. Et je pense aussi qu'on va maintenant pousser les gens à s'inscrire sur Osmose. Pourquoi ? Parce que Osmose, c'est l'endroit où le programme des MATADS va publier, va capitaliser, va animer la communauté des différents acteurs de cette dématérialisation. Une petite parenthèse sur Osmose, c'est une plateforme collaborative gratuite. On le verra avec le CNFPT, Madame Caron a sa propre e-communauté. Elles sont complémentaires, hein, ou en tout cas, on est multicanal, j'allais dire. Hein, on n'adresse pas exactement les mêmes sujets, donc il n'y a pas de compétition entre nous, évidemment. Et sur cette plateforme Osmose, vous trouverez une FAQ, donc une foire aux questions. Il y a déjà 140 questions. Vous trouverez des outils de communication, la possibilité de poser des questions auxquelles mon équipe et moi, on essaye de répondre le plus rapidement possible quand on a la réponse, parce qu'on n'a pas forcément toutes les réponses tout de suite. Et puis, de la documentation métier, voire même de la documentation technique pour les modalités de raccordement et comment faire en sorte de développer les différents outils pour se raccorder à plateau. Donc pour nous, cette année, c'est plus de l'information, c'est un véritable engagement qui doit être réalisé. Oui, parce que, excusez-moi, j'ai un petit blanc, il faut qu'on puisse s'engager parce qu'au 1er janvier 2022, je pense qu'on aura déjà des pétitionnaires qui seront prêts à déposer de manière dématérialisée de leur part. Et donc, il faut qu'on soit prêt, toute la communauté, à recevoir ces demandes d'autorisation d'urbanisme.
Ça fait beaucoup de travail, tout ça, quand même. Rassurez-nous, vous ne comptez pas faire ça tout seul.
Non, toujours pas. Toujours pas. C'est une question que Billy, que je salue, m'avait posée. Voilà. Est-ce que vous comptez faire ça tout seul ? Non, bien sûr que non. On a une équipe. Et puis, c'est surtout qu'on a énormément de partenaires qui travaillent avec nous. L'AMF, la DCF, le CNFPT, l'UIAP. Et je pense que ça serait intéressant, peut-être, de diffuser l'interview que vous avez réalisée.
Eh bien, justement, on va l'écouter. On en a beaucoup parlé. Nous avons dû interroger à ce sujet donc Clémence Caron. Elle est animatrice du pôle urbanisme et aménagement à l'Institut national spécialisé d'études territoriales de Dunkerque. On l'écoute, on en reparle juste après. Bonjour Clémence.
Bonjour Johanna.
Alors, racontez-nous d'abord comment et puis aussi pourquoi le CNFPT s'est mobilisé sur ce sujet de la dématérialisation des AU.
Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour l'invitation. Alors, pourquoi le CNFPT s'est mobilisé sur le sujet de la dématérialisation de l'instruction est une belle question. Je dirais plutôt que c'est pour l'établissement une évidence. Actuellement, le CNFPT dispense de nombreux stages à destination des instructeurs et des agents d'accueil en service urbanisme, que ce soit des stages sur les fondamentaux en cas de prise de poste ou de stages d'approfondissement sur des sujets plus précis. Et donc, investir la dématérialisation s'inscrit donc dans la volonté du CNFPT de proposer une offre de formation complète à destination des instructeurs. Enfin, c'est un sujet de plus en plus plébiscité par les agents. Et le décret du 5 novembre 2018 repoussant l'échéance de la saisine par voie électronique en urbanisme, puis ensuite la loi Elan, ont posé des obligations pour les collectivités avec une échéance connue fixée au 1er janvier 2022. L'actualité juridique de cette fin d'année 2018 a donc mis la dématérialisation au cœur des préoccupations des collectivités et des agents territoriaux notamment. Donc c'est un sujet qui est désormais sur de nombreuses lèvres dans les services urbanisme. L'arrivée de M. Lannes sur le poste de directeur du programme DEMAT-ADS a facilité les échanges et les a même intensifiés. Une belle collaboration s'est installée.
Alors, on connaît en général le CNFPT pour ses stages et ses formations, mais ce n'est pas que cela. Il propose également une offre de services complémentaires aux stages. Quels sont ces services ?
Alors, concernant la dématérialisation l'autorisation du droit des sols, je vois surtout deux canaux. Le premier, les webinaires qui sont des temps de formation accessibles à distance, en général sur la pause méridienne pendant une heure, pour qu'un maximum d'agents intéressés puissent se rendre disponibles. Ensuite, deuxièmement, il y a la e-communauté thématique urbanisme et aménagement qui réunit aujourd'hui plus de 3600 adhérents.
Ces canaux sont actifs aujourd'hui à date ?
Oui, bien entendu. Alors, le premier webinaire, pour parler des webinaires, a été proposé il y a environ un an, le 24 septembre dernier, et c'était M. Lannes qui officiait. Il a été le premier, si je puis dire, à ouvrir le bal, et j'espère qu'il ne sera pas le dernier, puisque le dernier a eu lieu la semaine dernière. En un an, nous avons proposé environ 9 webinaires qui enregistrent plus de 3000 participants. La période du confinement était une période propice pour programmer les webinaires. Le public était captif, car un peu plus disponible, mais également curieux et désireux d'approfondir un sujet face auquel, en fait, il a eu davantage d'intérêt en période de confinement. On y retrouve donc des fidèles, des habitués, des participants plus ponctuels en fonction du sujet développé. Et ces webinaires mobilisent bien sûr les territoriaux, mais pas que. On y retrouve des agents de l'État avec les représentants des DDT et des opérateurs privés. Et dans le développé, on a essayé de proposer un équilibre entre sujets précis et témoignages autour d'expériences de collectivités déjà engagées dans la dématérialisation. D'ailleurs, je tiens à remercier les collectivités qui se sont prêtées à l'exercice, Brest Métropole, Flers Agglo, la ville de Paris, ou qui vont se prêter à l'exercice. Je pense à la commune du Haut-Béarn le 8 octobre prochain. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est encore possible.
Et j'imagine qu'alterner les temps d'information institutionnelle et les retours d'expérience servent à rendre tout cela un peu plus concret.
En fait, ces témoignages ont vocation à être inspirants pour les participants et ainsi démontrer que la DEMAT est possible, quel que soit le contexte local. Donc, on a traité les sujets de l'archivage électronique, la conduite du changement, les mesures de plan numérique.
Peut-être que
vraiment des sujets très concrets.
Peut-être que certaines collectivités nous écoutent aujourd'hui, et je l'espère d'ailleurs, et découvrent que le CNFPT mène des actions depuis longtemps déjà. Comment faire pour se mettre à la page si on n'a pas écouté les 9 derniers webinaires ? On peut les rattraper ?
Oui, il n'est pas trop tard. Chaque webinaire a été enregistré et ensuite mis à disposition sur la fameuse e-communauté urbanisme et aménagement du CNFPT. D'ailleurs, vous parlez d'e-communauté, belle transition, car il s'agit là du deuxième canal d'information cité en préambule tout à l'heure.
Alors, vous pourriez nous en dire un peu plus sur cette e-communauté ?
Alors, les e-communautés du CNFPT sont des réseaux sociaux professionnels proposés par le CNFPT. Il y en a environ une cinquantaine, une par dans chaque champ de l'action publique. Et il y en a une spécifique pour l'urbanisme et l'aménagement.
Donc, concrètement, je veux rejoindre cette e-communauté. Qu'est-ce que je vais y trouver ? Qu'est-ce que ça va m'apporter ?
Plein de choses. Les intérêts sont nombreux. Tout d'abord, vous trouverez l'information des documents sur la thématique de l'urbanisme. Une rubrique a d'ailleurs été créée spécifiquement sur la dématérialisation de l'ADS pour être plus lisible. Deuxièmement, c'est un réseau social entre pairs, riche de plus de 6300 membres, avec la possibilité donnée à chacun de s'exprimer. Alors certes, les 6300 ne sont pas tous actifs et ne s'expriment pas tous de la même manière, mais beaucoup, ils sont contributeurs, donc ils posent des questions, certains apportent des réponses ou des témoignages, posent de l'information. Il y a là une belle dynamique et je pense que cela constitue une belle richesse pour les membres. Troisièmement, des ressources inédites sont disponibles, comme des témoignages de collectivités, Rouennais Agglomération et prochainement celui de la communauté de communes de Landes-Côte Nature qui nous a fait l'honneur de se prêter à cet exercice de témoignage. Et enfin, quatrièmement, l'équipe d'animation que je salue en la personne de Vincent, Olivier et Jean-Philippe, au profil complémentaire, puisque ce sont des juristes et agents de collectivité. Cette équipe fait un formidable travail au quotidien. Donc, je les remercie. Et donc, si vous n'êtes pas déjà membre, j'espère vous avoir donné envie d'y adhérer, en sachant que l'adhésion est offerte à tous, agents de collectivité ou non. Donc, tous les auditeurs intéressés peuvent y adhérer. Et argument final qui pourrait peut-être finir de vous convaincre, c'est totalement gratuit. Après une rapide inscription. Donc pour cela, il vous suffit de saisir e-communauté CNFPT dans un moteur de recherche quelconque et vous allez ensuite donc arriver sur une page qui va vous permettre de vous inscrire rapidement. Enfin, il faudra une adresse mail et un mot de passe et ensuite sélectionner les e-communautés auxquelles vous voulez adhérer. Donc moi, je vous y attends nombreux sur celle, la e-communauté urbanisme et aménagement.
Et vous aurez sans doute quelques nouveaux inscrits d'ici ce soir. Vous nous le disiez.
Donc au plaisir de les retrouver. Hein.
Vous les attendez.
Oui.
Vous nous le disiez au début, le CNFPT, ce n'est pas seulement un centre de formation, et vous venez de nous le démontrer, hein, mais finalement, nous n'avons pas encore parlé de ce fameux CNFPT, et nous n'avons pas parlé de formation.
C'est vrai. Alors, c'est vrai que le CNFPT est avant tout un centre de formation pour les agents territoriaux et propose donc des formations. Ces formations, on les connaît traditionnellement par des stages figurant au catalogue du CNFPT. Et avec l'ensemble de mes collègues à l'échelle nationale que je salue au passage et qui sont aussi trop nombreux pour que je les nomme tous, on actualise régulièrement ce catalogue pour proposer des formations nouvelles correspondant aux besoins exprimés ou à des besoins futurs proches.
Et alors sur la dématérialisation de l'ADS, vous avez déjà des choses qui sont proposées ?
Oui, alors on a créé de nouveaux stages qui figurent au catalogue en lien avec la dématérialisation. Donc figure la conduite de la dématérialisation de l'ADS, la sensibilisation à la dématérialisation. On pense qu'il faut sensibiliser un public autre que ceux de l'urbanisme, donc les DSI, les archivistes, etc. Donc ce stage s'adresse à eux. Il y a aussi la mesure de plan numérique, la mise en œuvre d'une stratégie d'archivage numérique, et cette offre est appelée à s'étoffer.
Alors si une collectivité rencontre une problématique, peut-être spécifique à son territoire, sur laquelle elle a besoin de se former, mais que cette formation n'est pas au catalogue ?
C'est pas forcément en fait toujours connu, mais le CNFPT fait du sur-mesure pour les collectivités lorsqu'elles ont un besoin en formation exprimé sur une thématique et qui concerne plusieurs agents. Ce sur-mesure s'appelle l'intra ou l'union. Et donc des collectivités sur le sujet de la dématérialisation n'ont pas hésité à se rapprocher des délégations locales dont elles dépendent pour exprimer ce besoin. Enfin, en complément de cela, il y a l'organisation de journées thématiques organisées localement. Il y a eu le 3 mars dernier à Lille une journée sur l'urbanisme à l'heure du numérique. On s'est largement penché sur la dématérialisation. Il y aura aussi une autre demi-journée programmée à Lyon le 5 novembre prochain. D'ailleurs, les inscriptions sont ouvertes. Donc en conclusion, si vous avez un besoin en formation, je vous invite vivement à consulter le catalogue du CNFPT et à vous rapprocher via vos référents RH de vos référents au CNFPT.
Alors, on a parlé de webinaires, on a parlé de e-communauté, on a parlé des formations. La palette de dispositifs du CNFPT est vraiment large, et puis c'est tant mieux, hein, puisque nous avons vu avec Jean-Baptiste que la dématérialisation de l'ADS va apporter de nombreuses transformations d'ampleur sur le métier, sur les pratiques, sur les modes d'organisation et le travail. Est-ce que ces dispositifs, dont évidemment personne ne nie l'importance et l'intérêt, sont-ils suffisants pour accompagner les transformations d'ampleur qui sont à venir dans les prochaines années?
Moi, je dirais qu'ils sont complémentaires. Les webinaires permettent de se tenir informés régulièrement de l'actualité et de l'avancement des travaux. La e-communauté de partager avec d'autres collectivités et de s'inspirer de bonnes pratiques. Et la formation d'acquérir de nouvelles compétences. En complément, mais aussi indissociablement du volet formation, le CNFPT travaille sur les métiers de la fonction publique territoriale. Il exerce en continu une veille sur les métiers, leurs évolutions et les besoins en compétences et professionnalisation associés. Cela pour deux raisons que j'évoque très rapidement. Le CNFPT publie un répertoire des métiers de la fonction publique composé de fiches métiers. Et ces fiches métiers jouent un rôle majeur en collectivité. Elles servent de référence pour l'établissement des fiches de poste et dans le suivi des carrières, mais aussi de référence pour les plans de formation et lors des entretiens professionnels annuels. De plus, cette veille constante sur les métiers permet d'inscrire le CNFPT dans une dynamique d'évolution de l'offre de services pour correspondre au plus juste aux besoins des agents.
Et on comprend mieux tout de suite le rôle du CNFPT sur l'évolution des métiers.
Effectivement, quand on dit dématérialisation de l'ADS, forcément on pense en premier lieu à l'instructeur dont le métier va évoluer. Et c'est certain, dans l'organisation, les méthodes, les attentes, ces changements ne touchent pas que les instructeurs. Les agents d'accueil et ou administratifs vont également être fortement impactés. Ces agents, on a tendance à les oublier. Or, c'est un des publics qu'il faut, sur lequel il faut porter son attention.
Pourquoi ces publics-là en particulier?
En fait, leur poste est composé pour une large part de tâches administratives saisies, traitements informatiques avec du tamponnage de dossiers, d'envoi de courrier, de recommandés, etc. à faire. Et la dématérialisation à terme va faire disparaître une bonne partie de ces tâches. Donc, quid de ces agents dans le futur? Il faut se poser la question et cela va conduire pour certains à des mobilités vers d'autres postes et pour d'autres, il y a là une opportunité de monter en compétences. Et donc un accompagnement minutieux est à prévoir.
Et les instructeurs, alors on n'en a pas encore parlé, mais finalement ce sont eux les premiers intéressés.
Vous avez raison. Nous avons lancé deux sondages et un groupe de travail sur le métier en janvier 2020. Mais qu'on a dû hélas, dont les travaux ont hélas été un peu perturbés au regard de l'actualité sanitaire des derniers mois. Mais il en ressort déjà trois grands enseignements. Tout d'abord, c'est un métier qui est actuellement en souffrance. Il peut s'agir de difficultés à recruter, d'un manque de valorisation, tout simplement un manque de connaissance de ce qu'est le métier. Ensuite, c'est un métier qui se complexifie de plus en plus, empilement des législations, relations élus administrés, et qui nécessite une expertise importante. Et enfin, c'est un métier exercé par des agents motivés, impliqués, et qui pour beaucoup vouent un véritable amour du métier, en dépit du contexte parfois un peu compliqué. Donc à mon sens, il faut voir en la dématérialisation une véritable opportunité, au-delà des bienfaits qu'elle pourrait apporter, et ça c'est un autre sujet, pour faire évoluer positivement le métier et changer le regard qu'on y prête.
Un petit mot pour conclure cet entretien, Clémence.
Oui, bien volontiers. Alors, pour conclure, je vous réitère mon invitation à adhérer à la e-communauté urbanisme et aménagement, car sa vocation est de vous accompagner au quotidien dans vos missions. Et c'est un outil à votre disposition et pour vous. N'hésitez pas également à engager sur le sujet de la dématérialisation de l'ADS un échange entre vous, vos services RH et vos référents CNFPT locaux. Et bien entendu, pour ma part, je reste à votre disposition et votre écoute. D'ailleurs, je suis avide de vos retours pour alimenter les travaux du CNFPT, enrichir le catalogue et l'offre de services.
Le message est bien passé. Merci beaucoup Clémence Caron d'avoir été avec nous dans ce MAC de l'urbanisme et de l'aménagement et du logement.
Merci à vous.
Clémence Caron, beau témoignage d'implication. Jean-Baptiste, existe-t-il d'autres interlocuteurs pour les collectivités territoriales?
Oui, bien sûr, bien sûr. Et j'invite les collectivités territoriales à prendre contact avec ces différents interlocuteurs. D'une part, avec les directions départementales des territoires, et de la mer, le cas échéant. Elles vont, ces directions départementales vont organiser dans les prochaines semaines des clubs ADS spéciales DEMAT ADS, dématérialisation de l'application du droit du sol. Vous avez aussi les associations d'élus au niveau local. Ce sont des relais intéressants d'information. Vous avez aussi les éditeurs de solutions qui peuvent être des supports et qui peuvent apporter ce qu'ils font habituellement, c'est-à-dire des solutions. Et puis les structures mutualisantes, c'est-à-dire les opérateurs publics de services numériques, qui, pour certains territoires, mutualisent des outils et mettent à disposition de leurs adhérents des outils déjà très approfondis, en tout cas de très bonne tenue. Puis on aura, mais je l'ai dit, je pense qu'on aura une bonne vision de l'implication des territoires grâce à l'enquête qui a été faite par l'AMF et la DCF qui montrera le niveau d'application et les différents contacts, interlocuteurs qui existent pour les collectivités territoriales.
Concrètement, pouvez-vous nous donner les grands thèmes sur lesquels vous allez travailler cette année pour accompagner ces acteurs ?
Alors, je vais vous donner les thèmes des travaux qui vont arriver à très brève échéance. Et puis, comme le temps file, on pourra revenir sur ces questions lors des prochaines émissions. À brève échéance, on est en train de préparer le congrès et le salon des maires avec l'AMF et la DCF, quelle que soit la forme qu'il prendra d'ailleurs, pour renforcer la visibilité du programme et essayer d'apporter de l'information aux élus, qui est une cible pour nous prioritaire. Ça nous est rappelé par l'ensemble des services d'application du droit des sols. On travaille, comme l'a dit Clémence, on travaille avec le CNFPT pour ces outils de formation. C'est extrêmement important pour qu'ils soient à fin prêts pour l'année prochaine. On va travailler aussi avec l'UGAP pour rendre visibles toutes les offres de prestations qu'ils sont capables de prestations et de services qu'ils sont capables de donner pour les collectivités. Et puis sur Osmose, on va actualiser les outils de communication, les plaquettes, les marches à suivre, et on va renforcer, on va augmenter avec un certain nombre de documents très pratiques, très pragmatiques et faciles d'appropriation. En particulier, un document sur les obligations SVE élan, un carnet de route, la chaîne d'instruction avant-après. Ces documents qui ont comme objectif d'être diffusés très très largement. Et d'ici la fin de l'année, on va préparer le plan de communication vis-à-vis des pétitionnaires, sachant que le contact avec les pétitionnaires reste la prérogative des collectivités, mais au moins de contribuer à ce plan de communication.
En conclusion, quelles sont les bonnes raisons de ne pas attendre plus pour s'engager dans la démarche ?
Alors, en conclusion, très simple, ces travaux, on les a cités, et je pense que maintenant tous les auditeurs le savent, il y a une diversité de travaux à conduire, et c'est des travaux qui nécessitent un peu de temps. Et même si la date du 1er janvier 2022 semble encore lointaine et qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà engagées, ça va quand même nécessiter du temps. Donc attendre, c'est finalement se mettre, en risque par rapport à l'échéance du 1er janvier 2022. Deuxième argument qui est important, c'est qu'il existe maintenant beaucoup de choses qui sont facilement disponibles, beaucoup de communautés, beaucoup de sites. Alors, il y a celui de l'AI Communauté du CNFPT, mais il y en a d'autres. Il y a Radio Territoria, vous avez des émissions, vous avez des facilités pour rentrer dans la matière, ce qui n'existait pas, il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis, il y a la plateforme Osmose où nous vous invitons à adhérer. En troisième sujet, vous avez des acteurs qui sont capables de vous accompagner en très grande proximité, ce que, j'allais dire, le ministère et l'État n'est pas capable de faire, qui sont le CNFPT et l'UIAP, auxquels, si vous avez des questions et des problématiques, vous pouvez les poser pour essayer pour être accompagné. Donc, trois bons arguments pour avancer de manière rapide, très prosaïque, pour se rassurer, pour avoir de la visibilité sur ce qu'il y a à faire.
Merci Jean-Baptiste Lannes pour toutes ces explications sur le programme DEMAT ADS. Vous restez bien avec nous. Oui. On poursuit avec Michel et les questions de nos auditeurs.
Le MAC de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, on répond à vos questions.
Beaucoup de questions encore aujourd'hui, Michel, sur ce programme d'EMAT ADS.
En effet, Johanna, on a de nombreuses questions des auditeurs et en particulier des questions sur les communes de moins de 3500 habitants, puisqu'on a évoqué les obligations qui s'imposent à celles qui ont plus de 3500 habitants. Donc, je vais en prendre plusieurs à la fois. Donc, on a une question de Vincent qui demande en quoi va consister plus précisément la saisine électronique des ADS pour les communes de moins de 3500 habitants. Et on a également une question de Xavier qui demande si ces communes-là pourront être connectées à plateau si elles le souhaitent et est-ce que ce sera possible dans les mêmes délais que pour les autres communes. Et plus récemment, on a Valérie qui souligne que pour ces communes-là, la procédure ne change pas en fait. C'est uniquement la quantité éventuellement et les situations particulières qui peuvent changer pour ces petites communes, mais pas la procédure.
Alors, je vais commencer par cette dernière question. C'était Valérie, je crois. Valérie a parfaitement raison. Donc, les prérogatives de chacun des acteurs sont conservées. Il n'y a pas de modification la réglementation de l'application du droit des sols. Ce qui fait que les prérogatives et les circuits d'information doivent être préservés et ce n'est pas la dématérialisation qui change quoi que ce soit. Donc ça, c'est tout à fait clair. Concernant les communes de moins de 3500 habitants, donc elles sont soumises à la saisine par voie électronique. Bon, alors, la saisine par voie électronique, c'est un très grand terme qui peut être résumé à les pétitionnaires doivent pouvoir déposer une demande d'autorisation d'urbanisme de manière dématérialisée. Alors, ça veut dire quoi ? Bah, ça peut être des dispositifs compliqués, des dispositifs riches dans lesquels vous avez un portail et les gens saisissent une demande d'autorisation d'urbanisme sur des écrans qui ressemblent au CERFA, et puis après les informations et puis les pièces justificatives vont jusqu'au logiciel d'instruction. Mais ça peut être des dispositifs qui sont bien plus simples. Et donc, vous téléchargez les CERFA, vous les remplissez, et puis vous les déposez avec vos pièces justificatives, vous les envoyez par courriel. Il y a des collectivités qui font des dispositifs simples parce qu'elles ont peu de demandes d'autorisation d'urbanisme et que c'est pas la peine d'avoir un dispositif extrêmement important. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces dispositifs doivent être conformes au CRPA. Et donc, ça nécessite, alors je ne suis pas un juriste moi-même, mais ça nécessite d'accuser réception en deux temps, un accusé réception technique et puis un accusé réception métier. Alors, il faudra que je donne les termes exact la prochaine fois pour que ça soit, je réponde au fond à la question. Mais donc il y a un certain nombre de contraintes sur la façon de répondre à une saisine par voie électronique, mais ça peut être un dispositif très simple. Ce qu'il faut dire, c'est que s'il n'y a pas de dispositif de saisine par voie électronique, le risque que nous discernons pour les collectivités territoriales qui n'auraient pas mis en place de dispositif, c'est qu'un simple courriel envoyé sur une boîte courriel pourrait suffire pour faire démarrer des délais. Alors, ça veut dire aussi que dès qu'on a un dispositif, même un petit dispositif, il faut en faire la publicité en mairie ou il faut en faire la publicité sur le site internet, etc. Et là encore, je parle de situations où nous n'avons pas de communauté. Donc, ça veut dire des toutes petites communes qui seraient encore instructrices de leur propre dossier seules, ce qui n'est pas le cas général. Donc, pour les communes qui sont au sein d'une communauté qui dispose d'un centre instructeur, là, la question va être, est-ce que cette communauté a dans ses adhérents une ville de plus de 3500 habitants ? Et à ce moment-là, si elle en a une, à ce moment-là, la communauté sera soumise aux obligations de la loi Élan. Et nous invitons évidemment que les outils qui seront développés dans le cadre des obligations de la loi Élan soient mutualisés avec toutes les communes de la communauté. Donc c'est des questions qu'on a déjà vues, c'est des questions qui sont un peu complexes au sens où il faut comprendre où est-ce que porte la responsabilité et comment tout ça se boutique, je dirais, localement. L'autre sujet aussi qui est important, c'est pour les communes qui sont au règlement national d'urbanisme, où là, ce sont les directions départementales des territoires qui réalisent l'instruction. Et pour le coup, là, on construit des outils qui permettront à celles qui le souhaitent de disposer d'un guichet unique dématérialisé pour faire le lien entre les outils de saisine par voie électronique et en particulier ADO qui est disponible sur le servicepublic.fr et les outils d'instruction propres aux directions départementales des territoires. Et donc, à ce moment-là, notre objectif, c'est que ces outils soient prêts pour répondre à la question du deuxième auditeur, soient prêts à peu près en même temps. Alors, il y aura certainement un décalage par rapport à Plateau, qui est quand même le pivot, qui est le hub. Donc, Plateau sera disponible plus vite, pour qu'en plus, les collectivités puissent se raccorder quasiment dès maintenant. Il y a déjà des collectivités qui travaillent, et des éditeurs qui travaillent au raccordement, comme on l'a déjà dit. Mais on souhaite que d'ici le début d'année prochaine, les outils Rio et puis ADO soient raccordés à Plateau pour qu'on puisse avoir un dispositif à proposer pour les communes au RNU. Donc j'ai essayé de répondre, sachant que les cas particuliers sont très nombreux et que je ne peux pas répondre sur chacun des cas. Donc ça ne répond peut-être pas complètement à la question des auditeurs.
Merci. On va peut-être poursuivre avec des questions de précision sur Osmose.
Oui.
Donc, on a Cyril qui nous demande si la plateforme Osmose est destinée aux acteurs non informaticiens, comme un responsable de service ADS.
Oui.
Et Olivier qui nous demande si une collectivité territoriale peut s'inscrire à Osmose.
Alors, la réponse est oui et oui. Voilà. Donc oui, au sens où c'est bien sûr pour des acteurs non métiers, hein, vous verrez, la foire aux questions, c'est des questions juridiques, des questions métiers, des questions prosaïques. Il y a aussi des sujets techniques et elle est ouverte à tous. Donc elle est ouverte à tous, elle est aussi ouverte à des éditeurs, à des services consultés, donc ça peut être ouvert aux SDIS, ça peut être ouvert aux éditeurs de solutions informatiques. Donc il n'y a pas de... Nous, on nous avait posé la question de est-ce qu'on fait une plateforme que pour les collectivités territoriales, et je pense que dans le cadre du programme, ce n'est pas le rôle de l'État de se dédier, la e-communauté du CNFPT peut répondre à ce besoin-là. Et nous, on fait une plateforme le plus ouverte possible pour que tous les acteurs partagent les documents et l'information de référence. Et les réponses que l'on fait s'adressent à tout le monde. Ça, c'est clairement donc oui pour les acteurs métiers. Et puis, une communauté peut s'inscrire. On voit bien que nous, directement, on sent qu'on adresse bien les communautés, puisqu'elles ont des centres d'instruction qui sont mutualisés. Et donc, généralement, c'est des acteurs qui font une veille et qui savent... Voilà. Pour l'instant, on n'a pas encore adressé les communes de ces communautés. Et puis, on sera de toute façon pas forcément un interlocuteur en première intention. Mais évidemment, une commune peut être intéressée, ne serait-ce que pour son rôle de guichet unique, de prendre un compte sur Osmose.
Alors, une autre question qui concerne d'autres partenaires, les services qui sont consultés, l'ABF, les parcs nationaux, les commissions comme la CDNPS.
Oui.
Est-ce que ces autres partenaires, comment vont-ils s'outiller numériquement? Est-ce qu'ils pourront se connecter à Plateau? Comment ça va marcher pour ces autres partenaires?
Alors, je vais faire deux catégories. Ceux qui disposent d'un outil pour gérer ces consultations, donc un outil informatique, et donc qui répondent à beaucoup de consultations. Je vais donner un exemple. Le ministère de la Culture, c'est 400 000 consultations par an. Donc, ils disposent d'un outil. Ces acteurs-là, ceux qui disposent d'un outil pour gérer leurs consultations, on va leur demander de se raccorder à Plateau. Ce qui permettra que, depuis les logiciels d'instruction, des communautés ou des directions départementales, on puisse envoyer des consultations et recevoir en retour des avis par l'intermédiaire de Plateau. Donc ça, c'est le premier vecteur. et on traite la masse des consultations, ce faisant. Le deuxième cas, c'est les acteurs qui ne disposent pas d'un outil. S'ils ne disposent pas d'outil, on part de l'hypothèse qu'ils rendent peu de consultations. Et donc, s'ils ne rendent peu de consultations, on va leur mettre à disposition un portail dans lequel ils pourront être sur lequel ils pourront aller, une fois qu'ils auront été sollicités sur une consultation, ils pourront récupérer le dossier et ils pourront saisir et joindre des pièces pour leur avis. Donc ça va être le cas de deux types d'acteurs, les petits gestionnaires, parce qu'on pense qu'on a des... Alors quand on dit petit par la taille, hein, pas par l'importance évidemment, hein, c'est par exemple des gestionnaires très locaux, des syndicats mixtes, des choses comme ça, qui finalement pourront être consultés quelquefois dans l'année par quelques communes. Donc à ce moment-là, ces gens-là n'ont pas d'outils et ils pourront utiliser un outil qui s'appelle Aviso pour avis autorisation d'urbanisme. Et puis une deuxième population qui nous intéresse grandement, c'est les commissions, les services en préfecture, qui eux ne sont pas forcément dotés d'outils, mais qui pourront rendre des avis par l'intermédiaire d'Aviso. Sachant que c'est un outil qu'on va faire, j'allais dire, à minima, et puis au fur et à mesure de son utilisation, en fonction des retours des utilisateurs, on sera certainement amené à l'enrichir. Mais au départ, ça va être véritablement, à Viso, un outil très très frustre.
Allez, on va prendre une dernière question. Malheureusement, le temps file, on n'aura pas le temps de répondre à tout le monde. On fera d'autres émissions sur le sujet, pas de panique.
Donc on a Yasmine qui nous pose des questions sur le champ de la dématérialisation. Est-ce que la dématérialisation sera également active pour les autorisations de travaux, pour les DIA, les décisions d'information d'aliénés, les notes de renseignement d'urbanisme?
Sur ce sujet-là, je ne sais pas répondre. Alors, je ne sais pas répondre parce que c'est vrai que depuis que je suis arrivé sur le programme, je me suis exclusivement intéressé aux demandes d'autorisation d'urbanisme. Je sais que pour les autorisations de travaux, je ne peux pas répondre, mais je crois que c'est le cas. Et pour les demandes d'intention d'aliénés, clairement, c'est le cas. C'est-à-dire que l'exception de saisine par voie électronique qui concernait aussi les demandes d'autorisation d'urbanisme tombe le 1er janvier 2022. Mais ça ne transitera pas par les outils que met le programme DEMAT-ADS. Ça fait l'objet d'autres travaux qui sont organisés en particulier avec les collectivités territoriales et les notaires pour les demandes d'intention d'aliénés.
On va conclure là-dessus ce troisième numéro du MAC de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement consacré au programme DEMAT-ADS. Merci Michel Phelep de m'avoir accompagné durant cette émission. Je rappelle que vous êtes chargé de mission animation territoriale DHUP DGALN et nous étions aujourd'hui avec le directeur du programme DEMAT-ADS, Jean-Baptiste Lannes. Merci Jean-Baptiste.
Merci. Et merci Johanna, merci Michel. Et puis, on aura certainement au courant du mois d'octobre une nouvelle émission où on abordera d'autres sujets. On essaiera de poursuivre cette exploration.
Et il faudra, car il y a clairement de l'intérêt sur le sujet. Merci à vous d'ailleurs d'avoir posé vos questions et de nous avoir suivis. Pour ceux qui voudraient retrouver les émissions précédentes consacrées à DEMAT-ADS, direction le site de Radio Territoria pour retrouver tous les podcasts du MAC, de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement. Restez bien à l'écoute de vos territoires sur Radio Territoria. À très bientôt.
Le MAC de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement. Une émission en partenariat avec les ministères de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, à réécouter et télécharger sur Radio Territoria et sur toutes les plateformes d'écoute habituelles.